Son regard en dit long sur sa détermination. Entrepreneuse dans les médias en Afghanistan, Hamida Aman fait figure d'exception dans un pays où les talibans réduisent les femmes au silence. 1973, naissance à Kaboul. Sa mère, fonctionnaire au ministère de la Culture, est une femme moderne, se maquille, fume en public et porte parfois des mini-jupes. Son père est officier dans l'armée. En 1981, la famille fuit l'occupation soviétique. C'est l'exil pour la Suisse. Hamida a 8 ans. Sur cette photo, dernier au revoir au grand-père. Sur celle-ci, elle le retrouve 20 ans plus tard, en 2001. Les attentats du 11 septembre ont alors précipité la chute des talibans au pouvoir. Hamida Aman peut rentrer au pays. Journaliste de formation, elle s'engage auprès d'ONG, puis crée une société de production audiovisuelle, Awaz Media, et multiplie les projets. Le 8 mars 2021, journée des droits des femmes, Radio Begum dédiée aux Afghanes voit le jour, 5 mois avant le retour des talibans au pouvoir. Depuis, la radio est plus utile que jamais. Ce jour-là, Hamida Aman accueille des jeunes filles venues participer à une émission éducative.
Les filles qu'on réunit ici, elles ont entre 12 et 16 ans à peu près. Et elles viennent c'est des enfants du voisinage. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'école aujourd'hui.
La radio diffuse chaque jour 6 heures de cours enregistrés comme dans une salle de classe, mais aussi des émissions de santé et de soutien psychologique. Les talibans imposent de ne pas parler politique. Dans les locaux, des rideaux séparent désormais hommes et femmes.
Il y a toujours eu beaucoup d'échanges entre hommes et femmes et ça s'est toujours super bien passé. Et ça me ferait vraiment de la peine de les voir séparés comme ça.
Depuis l'instauration de l'émirat islamique d'Afghanistan, Hamida Aman est devenue comme la gardienne d'un phare qui continue d'éclairer dans un océan de malheur.
C'est la seule initiative de ce type.
Actuellement, oui. Nous sommes la seule fois des femmes qui soient restées audibles. Il y en avait beaucoup avant l'arrivée des talibans.
Mais le 15 août est arrivé, 2021, parce que vous l'avez créé donc le 8 mars 2021. Elle a quasiment jour pour jour 2 ans, Radio Begum. Elle a eu 2 ans. L'arrivée des talibans a changé quelque chose? Vous avez eu peur qu'une autorisation vous soit retirée, que la situation devienne bien pire pour entreprise?
Comme toutes les institutions qui emploient des femmes, nous craignons de devoir totalement cesser nos activités. À notre grande surprise, les 6 premiers mois se sont plutôt bien passés. On a été même encouragés. On a dû effectivement faire des concessions.
Lesquelles? La ligne rouge, c'est la politique?
La ligne rouge, on ne fait pas de politique, mais ça, c'était notre décision. Ouais. Et l'autre facteur qui a fait qu'il a fallu séparer strictement les hommes et les femmes, parce que dans mes locaux, il y avait aussi des hommes qui travaillaient.
Ils ont changé d'étage, c'est ça?
Tout à fait. On était chanceux d'avoir suffisamment d'espace pour justement les séparer. Et les entrées sont séparées, donc le travail, etc. Tout est séparé, donc on suit scrupuleusement les consignes.
Qui vous finance?
Qui nous finance? Une UN Women, donc une agence des Nations Unies, nous finance actuellement, et aussi UNESCO. Et c'est grâce à ces financements-là que nous pouvons continuer à émettre. Sans cela, nous aurons dû cesser nos activités.
Vous savez combien de filles et de femmes vous écoutent?
On estime à peu près à 600 000.
Beaucoup.
Le nombre potentiel de femmes qui pourraient nous écouter. Mais, difficile de connaître les chiffres exacts puisqu'il n'y a pas de médiamétrie en Afghanistan.
Pas de statistiques.
Voilà. Mais il faut savoir que nous émettons depuis Kaboul et nous avons 6 antennes qui couvrent 10 provinces sur 34. Et actuellement, nous sommes en phase d'extension. Donc, c'est-à-dire que nous essayons tous les 3 mois d'étendre à une ou deux provinces supplémentaires. Donc on continue un petit peu à gratter de l'espace et de l'audience.
Mais il n'y a pas que des femmes qui écoutent.
Vous ne parlez pas politique, mais vous parlez du Coran et de théologie à ces femmes. Comment vous leur en parlez? Est-ce que vous citez des sourates et des hadiths pour leur dire, voilà, vos droits sont aussi là?
Tout à fait. Nous avons parmi nos programmes phares, c'est du conseil spirituel, et sont donnés par 2 femmes théologiques qui ont fait des études de théologie et qui se basent sur les écrits, sur le Coran, sur les hadiths, sur le Coran, pour dire, ben voilà, à la place des femmes, le Coran dit ça, les écrits disent ça à propos des femmes, sur le travail des femmes, sur l'éducation, sur leurs droits. élémentaire sur le divorce. Nous évoquons le divorce aussi, l'héritage. Tous ces domaines sur lesquels les femmes sont généralement spoliées.
Bien sûr. Parce que 40 ans de présence des talibans en Afghanistan a créé, c'est ce que vous dites, quasiment une génération et demie de gens très acculturés et qui ne sont pas au courant de leurs droits, notamment.
Tout à fait. Alors les talibans, ce n'est pas 40 ans de talibanisme, mais 40 ans de conflit.
Ouais.
Et même avant cela, il faut savoir, on n'est pas passé non plus d'un monde idéal à l'enfer. C'est un des pays les plus pauvres du monde, où les femmes, où le taux d'éducation est un des plus faibles au monde. Donc, bien avant la prise de pouvoir des talibans, ce n'est pas dû uniquement à cela. Les talibans sont venus effectivement empirer la situation, et ils sont en train d'empirer la situation, mais voilà, c'est des siècles de domination masculine, de tradition et d'ignorance. Et finalement, c'est ça notre combat. Nous nous battons contre l'ignorance. C'est ça notre vrai ennemi dans ce pays.
Vous dites que depuis quelques mois, vous avez noté que de plus en plus de jeunes filles téléphonaient pour évoquer des situations de dépression, de détresse psychique, voire même des envies, des pulsions suicidaires.
Tout à fait. On a été surprise au départ. On avait des appels, des témoignages de femmes, de mères qui nous parlaient durant ces programmes de soutien psychologique, de conflits familiaux. Par exemple, je peux citer une femme qui nous appelle de plus en plus régulièrement, et Fatima, elle a 40 ans, elle habite à 40 km de Kaboul, et son mari est toxicomane, ils ont 4 enfants, et elle est en dépression totale, parce qu'ils n'ont aucun revenu, on ne sait même pas comment ils peuvent survivre. Et elle a commencé à nous appeler, elle se sentait mieux.
Il y a aussi des hommes qui vous appellent.
Hein. Des hommes aussi. Tout à fait. Les appels ne sont pas uniquement des femmes, mais aussi des hommes.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Mais la même chose.
Mais la même chose quoi?
C'est-à-dire, ils sont en état de dépresse. Ils nous parlent de leurs symptômes de dépression, leur perte de sommeil, leur perte d'appétit et la détresse. Et en fait, il faut savoir qu'en ce moment, ce n'est pas les femmes sont extrêmement touchées, mais les enfants, les jeunes, toute la population. On a perdu espoir, malheureusement.
Vous avez perdu espoir?
Pas
vous dites ça avec un air tellement lumineux, un sourire tellement serein que...
La population a perdu espoir. Oui. Et on assiste, justement, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on assiste à une exode des familles. Et des cerveaux, non seulement les gens les plus qualifiés sont partis, et c'est ça le drame actuellement, le second drame qui nous touche de l'Afghanistan, c'est la perte des gens qualifiés.
On va évoquer effectivement une situation économique dramatique, Nadia.
Oui, cette perte d'espoir, elle est certainement liée à cette situation économique qui s'est dégradée gravement. C'était déjà très critique avant, mais tout s'est effondré. En quelques mois à peine, les systèmes bancaires, les systèmes financiers se sont effondrés. L'emploi, évidemment aussi, il y a beaucoup d'entreprises, des milliers d'entreprises qui ont fermé. Le PIB qui s'est contracté de 30%, d'après l'IRC, c'est une ONG qui est présente sur place. Cette crise économique que traverse le pays, elle pourrait faire plus de morts que 20 ans de guerre, puisque ce sont des chiffres dont on dispose aujourd'hui. 97% de la population, c'est énorme, vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. La majorité ne mange pas à sa faim. Il y a un risque de famine aiguë. Et ça, c'est la raison pour laquelle on entend de plus en plus des experts de l'ONU, notamment, appellent les États-Unis ou encore d'autres pays étrangers à lever les sanctions, à débloquer tous les avoirs qui ont été gelés. Vous êtes d'accord avec ça? Il faut desserrer l'étau d'abord pour la population?
Mais bien sûr, c'est ça. Il faut savoir que la situation humanitaire catastrophique n'est pas uniquement due aux talibans. Les talibans n'y sont pour rien, ils sont arrivés et le pays, du jour au lendemain, s'est vu privé de 80...
Du fait des sanctions.
Voilà, du fait des sanctions.
Était sous perfusion
étrangère. On était sous perfusion étrangère à 80
par... Mais ça risque pas de les renforcer, pardon, Amida Man, si on lève ces sanctions. Est-ce que les talibans ne vont pas se sentir renforcés aussi dans leur pouvoir? C'est pas ça aussi le risque.
Mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse la population mourir de faim? Vous venez d'évoquer 87% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Moi, chaque fois que je me rends en Afghanistan, c'est les gens, les personnes que je connais, je les vois de plus en plus dépérir. Oui. Ils ne tiennent plus. Qu'est-ce qu'on fait? Sous prétexte de ne pas financer, mais en même temps, en fermant le système bancaire, en mettant cet embargo bancaire, qu'est-ce qu'on fait? Là, actuellement, des grandes ONG utilisent des services alternatifs pour acheminer l'argent. Et là, c'est du blanchiment d'argent qui se fait. Donc, finalement, qui gagne dans tout ça?
En tout cas, pas le peuple. Une dernière question à propos de Radio Begum. Est-ce que, d'une certaine façon, cette radio, qui a plus de 2 ans, n'est pas une forme si on le voit de façon perverse, de preuve de la tolérance des talibans, si on les accuse d'être liberticides, et ils le sont, ils peuvent dire, regardez, nous laissons vivre Radio Begum, nous ne sommes pas si liberticides. Est-ce que vous avez incorporé ce paradoxe ?
Alors, nous sommes, bien sûr, nous sommes les premières surprises de pouvoir, mais il faut quand même mentionner que nous avons toujours un couperet au-dessus de la tête. Mmh. C'est pas un acquis. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc chaque jour est une victoire pour nous et nous la. Et effectivement, le contenu que nous proposons est vraiment un contenu de service public. Mmh. C'est vraiment pour un soutien aux femmes. Et on se garde bien sûr de toute critique du gouvernement.
Mais
nous devons concilier avec le régime. Mmh.